Et tout de suite, on retrouve Chronique pour la paix avec Uzi Meyerson, son invité aujourd'hui, Yehoshua Amichav, ancien diplomate israélien et ex-porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Le thème, après la récente cérémonie à la Maison Blanche, des répercussions possibles des accords avec les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn. Uzi Meyerson, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous. Chers auditeurs, avant d'aborder le thème de l'émission, je voudrais que nous ayons une pensée pour tous les citoyens d'Israël, nos familles et nos amis, qui sont confinés pour les fêtes de Tichri pendant 3 semaines. Ça ne sera pas simple, mais finalement nous gagnerons la guerre de l'humanité contre le coronavirus. Soyez-en convaincus. Donc le sujet aujourd'hui, c'est la dynamique diplomatique entre Israël et les Émirats arabes du Golfe. Nous allons dresser avec Yehoshua Amichav un tableau de la situation. Que faut-il attendre de cette dynamique? En quoi modifie-t-elle la géostratégie du Moyen-Orient? Et quels seront les bénéfices pour Israël? Quelle sera la place faite aux Palestiniens? Yehoshua Amichav, vous m'entendez?
Oui, bonjour nos auditeurs et à toutes nos auditrices.
Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Vous êtes confiné, je suppose.
Confiné, oui. Jusqu'ici, bon. Ça va.
Voilà. Eh bien, on va avoir un petit peu de temps pour parler. Alors, là, nous sommes dans une dynamique diplomatique nouvelle. Il y a des traités qui sont signés avec le Golfe Persique, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, et on nous en promet d'autres. D'après vous, quelles seront les prochaines nations arabes qui signeront des accords?
C'est très compliqué, bien entendu. Il faut laisser les prophéties à ceux qui ont la prétention de pouvoir les faire. Moi, je ne suis pas là, bien entendu. Tout le monde avait le nom de Bahreïn sur les lèvres. Alors ça, c'est fait plus ou moins. Ce n'est pas vraiment un accord de paix, mais c'est un premier protocole d'accord qui a été signé à Washington. Et puis, les noms qui circulent, je pense que ça a été dit et écrit un peu partout. On attend de voir Oman, on attend de voir le Qatar éventuellement. Et évidemment, le grand nom, la plus grosse prise qui serait éventuellement faite dans ce processus, c'est l'Arabie Saoudite. Mais là, je pense qu'on va un petit peu trop vite dans les expectatives et que jusqu'à ce que Riyad décide d'officialiser, disons, sa participation à un processus de soutien manifestement très fort en coulisses, il se passera encore du temps.
D'accord. Mais
il y a d'autres pays, par contre, plus loin de la région, qui pourraient être tentés maintenant de sortir à découvert, si je peux dire. On parle beaucoup du Soudan. Et j'ai vu des réactions positives en Mauritanie aussi. La Mauritanie est un pays avec lequel l'État d'Israël a entretenu des relations diplomatiques pendant plusieurs années. C'était le troisième pays de la Ligue arabe après la Jordanie et l'Égypte à avoir des relations diplomatiques avec Israël. J'ai moi-même eu l'occasion de passer quelques semaines chargé d'affaires, on va dire, à l'ambassade d'Israël à Nouakchott. Après, malheureusement, il y a eu un changement de pouvoir là-bas, les relations étaient rompues. Mais le Soudan pourrait être, par sa position géostratégique que nous voyons tous sur la carte de l'Afrique, du nord-est de l'Afrique, pourrait être un pays très important s'il emboîtait le pas et prenait part à ce processus qui change effectivement les données régionales au Moyen-Orient.
Alors, est-ce que vous pensez que, avec la signature de ces accords, Israël fait un pas de peu plus dans son intégration politique et économique au Moyen-Orient? Est-ce que ça modifie beaucoup le paysage géostratégique de la région dans Yehoshua Amichav?
Oui, très certainement, très certainement. C'est pour ça que je ne vous cache pas que je comprends pas très bien le renaclement, je vais dire, de certains de mes amis à gauche, qui devraient quand même comprendre que ici on est dans un tout autre registre maintenant que celle de la paix avec l'Égypte et la Jordanie, qui bien entendu ont été d'une importance historique, capitale, décisive. On ne pourra jamais en exagérer l'importance. Mais force est de constater quand même que 30 ans de paix avec l'Égypte n'ont pas amené une vraie paix de réconciliation, on va dire, n'ont pas amené une paix chaleureuse, on va l'appeler comme ça. C'est une paix tiède, une gestion de relations diplomatiques qui se fait sans grand geste de rapprochement de part et d'autre. Ça ne retire rien, je le répète, à leur importance capitale. Mais de même avec la Jordanie aussi, on n'a pas vraiment réussi. Je pense qu'Israël, par rapport à la Jordanie, Israël doit se poser beaucoup de questions. Pourquoi, quelle est notre part de responsabilité dans le manque de relations chaleureuses avec la Jordanie? Tandis que les Émirats et Bahreïn semblent partis sur un tout autre registre. Et enfin, vous avez déjà eu une émission, une brève émission commune entre la TV israélienne, la chaîne 12, et les principales chaînes émiraties. Puis vous avez un message de Rosh Hashanah des autorités émiraties vers le peuple juif et, et l'État d'Israël. Vous avez des interviews, des articles écrits par des dignitaires très importants des Émirats dans la presse israélienne. Donc, il y a vraiment une volonté, mais simplement, je veux préciser une chose. On n'est pas vraiment, malgré que les accords s'appellent les accords d'Abraham, ce qui est un très joli nom, mais je pense qu'on n'est pas dans le registre sentimental de la grande réconciliation des fils d'Abraham. Je pense qu'on est surtout dans une politique de, enfin, dans une situation de réelle politique absolue, c'est-à-dire que les intérêts régionaux, la menace iranienne et aussi la perspective d'excellentes affaires entre les deux parties en présence sont les éléments qui ont motivé ces accords. N'oublions pas que le sultan, enfin les dirigeants des Émirats gèrent une fortune d'à peu près 1,3 milliard de dollars. Ça ouvre quand même beaucoup de perspectives d'affaires. Je crois qu'on est dans ce registre-là, un registre très concret, très business. Mais si ça s'accompagne encore une fois de mesures de rapprochement, de possibilités, de relations diplomatiques complètes, d'échanges culturels, d'échanges touristiques, alors tout va bien. Et je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche, comme le font, je le répète, certains de mes amis à gauche, et je ne le comprends pas très bien.
J'ai une autre question à vous poser, Yeshua. Je vais me faire un peu l'avocat du diable. Donc, les pays arabes sunnites ne font plus de la cause palestinienne une cause sacrée. On est d'accord?
Et puis, l'ont-ils jamais fait au-delà des paroles?
C'était le mainstream, c'était la parole dominante. Maintenant, comment ils le faisaient, c'est une autre affaire. Oui. Et leurs relations avec Israël ne dépendent plus de la création d'un État palestinien et d'échanges de territoire. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment un tournant idéologique et politique définitif, ou alors c'est quelque chose d'occasionnel et ça peut être remis lorsque l'expansionnisme iranien sera endigué? Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, oui. Écoutez, je pense très sincèrement que quand les Palestiniens se sentent abandonnés par la Ligue arabe et par le monde arabe, ils ont les meilleures raisons pour le penser, quelle que soit d'ailleurs leur propre responsabilité dans la situation dans laquelle ils se trouvent, qui me semble très importante, et j'espère que ces développements vont amener l'autorité palestinienne à réfléchir un petit peu sur l'impasse dans laquelle elle est enfermée aujourd'hui, et pour une bonne part, elle s'est enfermée aujourd'hui. Donc, oui, je pense que maintenant, une grande partie des pays arabes veulent effectivement passer, je ne veux pas dire passer à autre chose, je pense que la cause palestinienne reste importante pour eux, mais elle ne les empêche plus, manifestement, déjà maintenant, de gérer leurs propres intérêts, et l'intérêt vital, bien entendu, des Émirats et de l'Arabie Saoudite, l'intérêt vital est d'endiguer la menace iranienne qui reste très très présente. L'Iran est un pays fort. Moi, vous savez, vous avez lu comme moi toutes ces analyses dans les dernières années. On nous parle toujours de la lutte au sommet entre les conservateurs et les réformistes, et puis on nous parle de la grâce.
Eh bien, je vais vous interrompre, Yeshua, excusez-moi. Oui. On est arrivé à la fin. Donc je vous dis à bientôt, et je dis à bientôt à tous nos auditeurs. Au revoir.
À bientôt.
Au revoir. Et attention à vous.